Il y a une personne qui vient pour la première fois ce soir. Tout le monde est déjà venu. Non, c'est bon.
Om Pajan Savare Ramar Poche Dahi Chiyor Pemedan Sula Kajin Champe Gone Jesunte Kusunjun Kinyadu Saltusa Sangye Chedam So kichonamra jomchu badu dani kyasuchi dagi jinso ipesanamgi jora penche sangye dumpa
instant, on place le corps en méditation avec une colonne vertébrale la plus droite possible. On pense qu'avec la tête, on pousse le plafond. On médite les yeux ouverts. Et on essaie de ressentir dans la posture une stabilité. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. On dit que le corps est le reflet de l'esprit. Et quand on place le corps dans une posture favorable dans le sens où les souffles peuvent circuler librement dans les canaux subtils, eh bien, de ce fait, l'esprit a tendance à se calmer déjà. Une fois que le corps est en position, alors nous plaçons l'esprit en méditation. Et comme support pour l'esprit ce soir, nous allons porter notre attention sur notre nature de Bouddha. Sur cette nature de sagesse et de bonté fondamentale. Et vous pouvez vous représenter cette nature de Bouddha sous l'aspect d'une sphère de lumière. Vous lui donnez la taille que vous voulez, la couleur que vous voulez, et vous placez cette sphère de lumière au niveau du chakra du cœur. Et vous portez votre attention sur cette sphère de lumière. C'est donc un support, une visualisation qui sert de support Et tout en étant conscient de ce support, on reste conscient des phénomènes extérieurs, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on voit, mais aussi des phénomènes intérieurs, tout ce que l'on pense, les facteurs mentaux qui s'élèvent. Nous ne nous laissons pas distraire par ces phénomènes, nous essayons de rester conscients de cette sphère de lumière. Et tout en restant conscient de cette sphère de lumière qui symbolise notre nature de Bouddha, on essaie de porter notre attention maintenant sur les différentes qualités que l'on peut trouver en nous-mêmes, que symbolise cette sphère de lumière. Essayez de prendre conscience de tout l'amour qui est en vous et que vous pouvez développer pour certaines personnes, pour les personnes que vous aimez. Essayez d'expérimenter, de ressentir la présence de cet amour. Essayez de ressentir, d'être conscient de la puissance de cette qualité d'amour, de l'intensité que vous pouvez avoir pour certaines personnes. Essayez de ressentir maintenant la qualité de bienveillance que vous avez, que vous ressentez fortement pour certaines personnes, et essayez d'étendre cette bienveillance à un maximum d'êtres. Sentez cette bienveillance sous la forme de souhaits, mais également sous la forme d'actes que vous accomplissez ou que vous êtes prêt d'accomplir. Essayez de ressentir cette énergie de bienveillance, non pas comme une simple idée, mais comme une véritable énergie existante en vous. Maintenant, portez votre attention sur cette qualité qu'on appelle compassion, présente en vous, c'est-à-dire sentez à la fois le souhait et tout ce que vous faites concrètement qui exprime cette compassion, qui exprime votre souci de soulager la souffrance d'autrui, de faire en sorte qu'autrui souffre moins. On ne se laisse pas distraire, on ne se laisse pas aller à la torpeur. Mais on garde notre attention sur cette qualité de compassion. Et maintenant, appréciez le fait d'avoir ces qualités. Appréciez tout ce que vous faites dans votre quotidien qui, de façon concrète, traduit l'expression de ses qualités. Alors, par rapport à cette méditation, dans la pratique du dharma, dans la pratique du bouddhisme, tout repose sur la prise de conscience que nous avons, cet état de perfection, cet état de sagesse qu'on appelle la nature de Bouddha. Évidemment, tant que nous n'avons pas réalisé, tant que nous n'avons pas retiré tous les voiles qui obscurcissent l'expression de cette nature de sagesse, il nous arrive quelquefois d'avoir une attitude pas très, comment dire, on va dire pas très sage. C'est ce qu'on appelle tous les facteurs perturbateurs, tous les actes que nous accomplissons sous l'emprise de la colère, de la jalousie, de l'orgueil, de l'attachement, etc., de l'indifférence, etc. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas à ce moment-là notre nature de Bouddha. Et j'insiste beaucoup sur ce point parce que nous devons absolument prendre conscience de la présence de cette nature de Bouddha en nous. Tant que nous n'avons pas la conviction que tout est en nous, nous aurons du mal à pratiquer pour développer cette sagesse, pour développer cette nature de Bouddha. nous aurons toujours la conception que la sagesse ou cette perfection existe, mais à l'extérieur de nous-mêmes. Nous serons peut-être encore pétris de tas de conditionnements, et peu importe de savoir d'où ils viennent, mais de tous ces conditionnements qui font que nous n'avons pas vraiment confiance en la présence de cette nature de Bouddha, et que on porte plutôt un regard négatif, voire médiocre, sur ce que nous sommes, sur notre nature, sur l'impossibilité de développer toutes ces qualités, etc. Or, tout le dharma repose sur le fait, eh bien, que tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, ont cette nature de Bouddha, et que ce qu'on appelle l'éveil, c'est la réalisation de cette nature de Bouddha. Donc, dans un premier temps, il faut avoir vraiment la conviction, mais qu'elle est présente en nous. Ça, c'est le béaba de notre pratique du dharma. Et si ce n'est pas clair pour vous, si vous n'êtes pas convaincu, cherchez-la. Et votre pratique, qu'elle soit cela pour le moment, et jusqu'à ce que vous soyez sûr, ouais, vous n'êtes pas si nul que vous pensez être. Des fois, c'est difficile. Des fois, quand on est complètement pris par l'accomplissement d'actes négatifs, etc., on se dit, vraiment, je ne vaux rien, quoi. Je suis moins que rien, je ne vaux rien, etc. C'est une tendance, oui, par laquelle on peut s'analyser, mais il faut se dire, non, ça, c'est pas un point de vue bouddhiste. Je ne suis pas nul, je ne suis pas médiocre, je ne suis pas négatif. De temps en temps, je peux manifester cela, ouais, mais ça n'est pas ce que je suis. Et pour vraiment prendre conscience et confiance dans cette nature de Bouddha, cherchez en vous toutes ces qualités, mais de façon concrète, pas besoin de bouquins, pas besoin de traités sur la nature de Bouddha. Cherchez en vous comment vous exprimez ces qualités dans votre quotidien. Ne vous dites pas, oui, j'aime cette personne, mais j'ai du désir, j'ai de l'attachement, donc j'ai pas vraiment de l'amour, etc. Oui, c'est tout mélangé. On n'extrait pas de l'or de la terre sans extraire de la terre avec. Si vous cherchez de l'or, uniquement des pépites d'or, sans rien à côté, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Donc il faut prendre tout le paquet, puis après on fait le tri. On purifie. Donc ne vous dites pas, ouais, si j'ai ça, je suis comme ci, je suis comme ça, etc. Chaque fois. Mais prenez un papier, quoi. Faites une colonne. Amour. Quand est-ce qu'aujourd'hui j'ai exprimé de l'amour? Concrètement, faites ce style d'exercice si ce n'est pas clair pour vous. Qui vous aime? Qui aimez-vous? Mes enfants, mon conjoint, mon père, ma mère. Voilà. Faites la liste. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'êtres, ne serait-ce que votre chien, mais il y a beaucoup d'êtres pour qui vous avez un sentiment d'amour, pour qui vous avez un sentiment de bienveillance, un souhait de compassion, un souhait de ne pas voir souffrir cet être-là. Et ça peut être très puissant si vous faites cet exercice-là, mais vous pouvez découvrir que ce sentiment-là peut être très très puissant dans votre esprit. Si vous avez, si vous avez un enfant, je suppose que... Et franchement, quand vous pensez à la souffrance de votre enfant, qui peut être malade, par exemple, et vraiment souffrir, qu'est-ce que vous ressentez dans votre esprit? Notez ça. Et s'il y a des larmes qui montent aux yeux, c'est pas de la sensiblerie, mais c'est vraiment de la compassion. C'est ça, la compassion. C'est faire en sorte que l'autre ne souffre plus. C'est ne pas supporter la souffrance pour l'autre. Ça commence par votre enfant, par votre conjoint, par vos proches. D'accord. Mais si c'est là, alors on comprend que la pratique, elle peut étendre cette compassion à plus d'êtres. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équanimité, petit à petit. Hein? Mais il faut être absolument convaincu que vous avez ces qualités-là en vous. Donc, travaillez là-dessus, parce que plus vous serez convaincu que vous avez ces qualités, alors plus vous allez en prendre soin. Et prendre soin de ces qualités, ce n'est pas développer de l'orgueil, mais c'est prendre conscience du matériau avec lequel, en tant que pratiquant du dharma, eh bien, je vais devoir travailler. Parce que toute notre pratique du dharma va consister à développer cette nature de Bouddha, donc développer ses qualités, et à purifier ce qui fait obstacle au développement de cette nature de Bouddha. Quand, par exemple, on a de la jalousie pour quelqu'un, en tant que pratiquant du dharma, il n'y a pas besoin de savoir d'où vient cette jalousie, qu'est-ce qu'il m'a fait, pourquoi, etc. Mais il faut noter que quand on a de la jalousie pour une personne, il est impossible de véritablement aimer, avoir de la compassion pour cette personne. Donc là, on voit que ce qui fait obstacle au développement de cette qualité pour cette personne, c'est la jalousie. Donc après, on va axer notre pratique sur ce qu'on appelle les facteurs perturbateurs, dont la jalousie. Mais parce qu'on voit que tous les facteurs perturbateurs, l'indifférence, le désir, l'attachement, etc., ça empêche le développement de ces qualités. Donc toute notre pratique, eh bien, va se porter sur ces facteurs perturbateurs. Et en creusant davantage sur la cause de ces facteurs perturbateurs. Qu'est-ce qui fait naître ces facteurs perturbateurs? C'est zygotique. Voilà. Ben, quand on a compris ça, toute la pratique ensuite, elle se focalise sur le déracinement de cette saisie gothique. Plus la saisie gothique diminue, plus les facteurs perturbateurs diminuent. S'ils diminuent, qu'est-ce qui s'élève dans l'esprit? Les qualités. Et c'est automatique, c'est systématique. Il n'y a pas besoin de se forcer. Il n'y a pas besoin de se dire aujourd'hui il faut que je sois sympa avec tout le monde, il faut que je sois bon avec tout le monde, il faut que l'autre que je ne peux pas encaisser, il faut quand même que. Hein? Voilà. Là, on est dans un processus toujours où on va contre quelque chose parce qu'on ne comprend pas d'où ça vient, on ne comprend pas la cause de ce qui se passe dans notre esprit. Donc il faut faire le lien. Mais avant de faire le lien, soyez sûr et certain, et une bonne fois pour toutes, que franchement vous êtes totalement sagesse, totalement amour, totalement perfection, totalement compassion, totalement bienveillance. Soyez sûr de cela. Même si c'est un petit peu, ça ne demande qu'à grandir. Hein. Tout le dharma se base là-dessus. Alors je sais que en Occident ça nous est difficile, mais laissez tomber vos guenilles culturelles qui font que vous avez du mal à croire en cette à la présence de cette nature de Bouddha. Et à chaque fois que vous accomplissez un acte négatif, que vous insultez quelqu'un, que vous vous mettez en colère, que voilà, il y a quelque chose comme ça, ne vous dites pas c'est ce que je suis. Dites-vous ouais, ça, j'ai pas encore fini le chemin. Alors, parce que je suis encore en chemin, eh ben, de temps en temps, il y a la saisie gothique qui se... Voilà, je ne l'ai pas encore vraiment déracinée, donc elle est toujours là, et ça, c'est des manifestations de la saisie gothique. Mais à ce moment-là, revenez toujours à cette nature de Bouddha. Parce que c'est ce qui va nous permettre de repartir, de retrouver un moyen dans le dharma, avec tous les enseignements qu'on reçoit, tout ce qu'on peut lire, etc., pour travailler sur ce qu'il a fait empêchement à l'expression de cette nature de Bouddha et de repartir en avant. Et c'est comme ça qu'on peut continuer. Parce que sinon, on fait du surplace, on est là à se morfondre sur soi-même et il n'y a pas plus égotique que cette vue de soi-même en tant que personne moche, négative, bonne à rien, qui n'y arrivera jamais, qui fait plus de mal que de bien, etc. Cette appréciation négative de soi, c'est la pire des saisies égotiques. On ne parle que de soi dans ce moment-là. Parce que quand on porte l'accent sur les qualités, on voit très bien que les qualités, on peut les offrir. On peut les faire rayonner auprès des autres. C'est par les qualités qu'on peut accomplir, comme on dit, le bien des êtres. C'est bon ? Nous étions comme partout, page 24, je pense.
Oui, oui.
C'est bon. Pardon ?
Ah non,
combien ? 46 ? Vous avez avancé tout seul, c'est fou. Je ne suis pas fou. Alors, c'est le deuxième chapitre. Comprendre les phénomènes. On a vu dans le premier chapitre que Ajahn Chah explique pourquoi est-ce qu'on médite. C'est pour être présent et conscient. Pas pour autre chose. On avait vu ça. On médite pour être présent et conscient. Et qu'il faut deux qualités pour que le calme mental s'installe dans l'esprit. Ces deux qualités sont... Non, il n'a pas utilisé ce mot. Pardon ? Ça touche.
L'énergie.
Voilà, l'énergie. Donc l'enthousiasme pour la pratique, la persévérance, et puis la deuxième qualité, la patience. Voilà, c'est bien. Donc voilà, il faut l'énergie, la régularité, et puis effectivement la patience. Bon. Et dès le deuxième chapitre, Ajahn Chah introduit comment méditer la vision supérieure ou la vision pénétrante. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup ces enseignements, parce qu'ils sont très proches des enseignements de Rinpoche. Rinpoche, il enseigne d'emblée le Mahamudra. Le Mahamudra, c'est l'union du calme mental et puis de la vision pénétrante. Alors, comprendre les phénomènes, c'est par là qu'on aborde la vision pénétrante. Vision pénétrante, cela veut dire qu'on pénètre la nature même des phénomènes. On voit la nature des phénomènes. Aujourd'hui, à l'état ordinaire, on ne voit pas la nature des phénomènes. On voit les phénomènes comme on voudrait qu'ils soient. Mais on ne les voit pas tels qu'ils sont. C'est bien pour ça que ça coince. Parce que les phénomènes, en fait, tels qu'ils sont, ça ne correspond pas à la vision que nous avons des phénomènes. Vous savez, c'est l'histoire des deux cadres. Je ne sais plus si on en avait parlé ici. On est constamment en train de définir un cadre. Les choses doivent être comme ça. Vous êtes venu ici ce soir, vous êtes parti de chez vous, en vous disant, voilà, si je pars maintenant, j'arrive à telle heure, à la place, je ne sais pas où on est là. Bon, ça c'est un cadre que vous vous êtes fixé. Il se peut que ce cadre a correspondu à la réalité. Mais si en cours de route, vous aviez une crevaison, la crevaison ne faisait pas partie du cadre. Or, la réalité, c'est la réalité. Et la réalité n'était pas conforme au cadre que vous vous étiez fixé. Donc, la réalité, eh bien, elle est en porte-à-faux, on va dire. Et la plupart du temps, ce que l'on fait, c'est au lieu de s'ouvrir à la réalité, à ce que sont les phénomènes qui marquent cette réalité, on reste fidèle à notre cadre, c'est-à-dire qu'on a du mal à faire sauter notre cadre. Et alors, on essaie de tortiller la réalité dans tous les sens pour que ça rentre dans notre cadre. Et en général, c'est comme ça que ça se passe. Donc on stresse, on s'énerve, il faut changer la roue en vitesse, si je ne la change pas, mais je vais arriver en retard, si j'arrive en retard, il va se passer ça, etc., etc., etc. Mais la réalité, elle est telle qu'elle est. Elle est ni bien ni mal, elle est telle qu'elle est. Mais simplement, notre projection de la situation, eh bien, c'était un cadre, mais ce cadre-là, c'était juste une idée, c'était juste une pensée. Et c'est pas ce cadre-là qui correspond à la réalité. Et la plupart du temps, c'est ce cadre-là qu'on prend pour réalité. Alors la vision pénétrante, c'est comprendre les choses, comprendre la nature des phénomènes. Ce qui fait que nous ne sommes pas en paix se trouve en nous. Ces causes se manifestent quand nous nous laissons tromper par les phénomènes intérieurs et extérieurs. Donc ce qu'on appelle les phénomènes extérieurs, c'est toutes les perceptions, tout ce qu'on entend, tout ce que l'on voit, etc. Les phénomènes intérieurs, c'est tout le domaine des pensées et des facteurs mentaux. Ce que nous devons faire, c'est entraîner l'esprit à la vision juste des choses. Comme nous ne voyons pas les choses correctement, nous prenons une voie différente, et là, tout nous paraît trop court, ou trop long, ou trop quelque chose. Ouais, ça ne correspond pas à l'idée que l'on a de la situation. Voir correctement, entre guillemets, signifie voir les caractéristiques de l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi dans tout ce dont nous faisons l'expérience. Autrement dit, dans notre corps et notre esprit. Voilà. Ces trois caractéristiques. Alors, comme je dis toujours dans les chuling, vous les écrivez en gros, en stabilo, en fluo, que ça clignote, sur votre volant de votre voiture, si vraiment vous passez beaucoup d'heures en voiture, sur votre fond d'écran d'ordinateur, si vous êtes rivé sur un ordinateur, sur votre frigo, si vous passez beaucoup d'heures dans votre cuisine, peu importe. Impermanence, non-existence propre, insatisfaisant. Et ça, c'est la nature de tous les phénomènes. Que ça nous plaise ou non, les phénomènes sont comme ça. Et que ça nous plaise ou non, il va falloir un jour voir la réalité des choses, voir la réalité des phénomènes. Et le Bouddha n'a jamais dit que par notre pratique, nous devions enjoliver la nature des phénomènes. C'est-à-dire, en d'autres termes, que nous ne pratiquons pas pour avoir une vue complètement angélique des phénomènes, de notre façon de vivre, de ce qui se passe dans le monde. Le Bouddha n'a jamais enseigné quelque chose de ce genre. Au contraire, il nous a enseigné, pas du tout pour qu'on devienne pessimiste, mais pour qu'on soit réaliste, qu'on voit les choses telles qu'elles sont, qu'on fasse face aux choses telles qu'elles sont. Ça, c'est tout l'enseignement du Bouddha. Il y a un jour, il faut faire éclater le cadre qu'on se fixe et se dire, les choses sont comme ça, elles sont comme ça. Première de ces caractéristiques, les phénomènes sont impermanents. Alors on le comprend tous avec notre cervelle. Mais de là à vraiment considérer l'impermanence de tous les phénomènes, c'est déjà plus difficile. Parce que nous n'avons pas cette, nous avons ce formatage de solidifier les choses, de les cristalliser, et de faire en sorte de les voir comme étant toujours quelque chose qui a toujours existé, hein, et qui est là, ou en tout cas qui est là le plus longtemps possible, et que ça ne va pas, si ça disparaît, ça disparaîtra après moi ou quand j'en aurai plus besoin. Et tant que j'ai besoin de cet objet, il ne peut pas disparaître. Tous les phénomènes qui nous sont plaisants, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Si le bonheur était permanent, si les objets qui nous rendent heureux, les objets entre guillemets, qui nous rendent heureux aujourd'hui étaient permanents, il y a des avocats dans le coin, ils feraient faillite. Je veux dire, tous les objets, toutes les situations, toutes les circonstances qui font naître un sentiment de bonheur dans notre esprit, sont totalement instables, sont totalement impermanents. Donc, l'effet qu'ils provoquent, le bonheur, est totalement instable, fragile et impermanent. Il est soumis à la présence de ces circonstances. Que ça nous plaise ou non, c'est comme ça. Et si vous n'êtes pas convaincu de cela, cherchez quelque chose, intérieurement et extérieurement, qui soit absolument permanent, unique. Toujours la même chose. Parce qu'attention, si quelque chose se transforme, ça veut dire qu'il n'y a rien de permanent. Et on oublie cela quand on est heureux. Et on solidifie les choses. Mais leur nature étant d'être impermanente, quand ces choses disparaissent, étant donné qu'on n'a pas accepté cette chose-là, la nature de cette chose, qu'éprouve notre esprit ? Frustration, insatisfaction, voire douleur, mais avidité pour reproduire cette sensation. Et c'est là où tous les facteurs perturbateurs tels que le désir, l'attachement, l'avidité, etc., eh bien, ça se met en place pour retrouver cette sensation, pour retrouver cet état, pour qu'il se prolonge, ou s'il a disparu, pour le faire revenir en tant qu'expérience. Et on fonctionne beaucoup comme ça. Et puis, on oublie que tous les phénomènes sont impermanents, notamment la souffrance. La souffrance est aussi un phénomène. Et c'est impermanent. Et on a tous souffert, à la fois physiquement et moralement. Aujourd'hui, quand on y repense, oui, il peut encore s'élever quelque chose. Mais ce n'est plus la même intensité, ce n'est plus de la même type d'expérience que nous avons pu éprouver quand la situation s'est produite. Et alors, quand on est malade, qu'est-ce qu'on en parle, hein? Qu'est-ce qu'on fixe? Qu'est-ce qu'on solidifie? Tout ce qui ne va pas, on a tendance à bien solidifier. Regardez toutes les conversations, j'allais dire, dans un coin de bar, quoi. Regardez toutes les conversations au niveau des nouvelles. Hein. Il n'y a que des faits négatifs, des faits tristes, malheureux, etc. Il y a une grosse saisie par rapport à tout cela. Et cette saisie, elle vient du fait qu'on solidifie aussi ces phénomènes, comme on solidifie les phénomènes qui sont plaisants et que l'on appelle... qui font naître cette sensation de bonheur. Ça ne veut pas dire que, lorsqu'on médite sur l'impermanence, ça ne veut pas dire qu'on va devenir insensible et qu'on ne va plus être touché par les situations. Mais ça va permettre à notre esprit de relativiser l'impact que la situation fait naître de façon ordinaire. C'est-à-dire que l'esprit, tout en ayant une sensation, par exemple, douloureuse, parce qu'il y a des situations, oui, on va ressentir de la douleur. C'est clair, le fait de vieillir, c'était pas toujours génial, quoi. Le fait d'être malade, c'est pas toujours agréable, ça d'accord. Mais au lieu que notre esprit soit complètement pris par ce phénomène-là, par la compréhension de la nature impermanente de cette situation, eh bien, notre esprit peut relâcher un peu la saisie, peut retrouver un peu de détente, peut retrouver un peu d'espace par rapport à cette situation. Parce que la compréhension de l'impermanence, eh bien, c'est ce qui va permettre à la saisie de s'ouvrir, de se relâcher. Et saisir, il y a quelqu'un qui a mis des années pour comprendre que quand on parle de saisie, ça n'a rien à voir avec la compréhension. Donc maintenant, je précise. Il ne s'agit pas de... Quand on dit qu'on saisit un phénomène, ça ne veut pas dire qu'on comprend le phénomène. Quand on parle de saisir, c'est synonyme de fixation. On reste fixé, agrippé, comme ça, vraiment sur ce phénomène, sur cet objet. Et alors ça tourne en boucle, hein, après. On n'a plus que ça à l'esprit. Donc, l'impermanence, c'est un des moyens qui permet de comprendre ce qu'on appelle la sagesse ou la vacuité, parce que il n'y a rien de stable, il n'y a absolument rien, il n'y a pas une molécule dans un phénomène, dans une situation, dans un individu que l'on peut dire ça, voilà, c'est ça. Et ça, c'est autonome, unique et permanent, c'est toujours là, ça sera toujours là, ça a toujours été là, ce sera comme ça tout le temps. Vous ne pouvez absolument rien trouver ayant cette nature de permanence. Il n'y a que l'impermanence qui soit permanente. Mais tout est de cette nature impermanente, que ça nous plaise ou non, quoi. Il y a un jour, il faut regarder les choses de cette nature impermanente. Et la compréhension de la vacuité va s'élever par cette observation de l'impermanence. Il n'y a pas besoin de savoir à quoi ça correspond, ce qu'on appelle la vacuité. Méditons, observons, réfléchissons l'impermanence, et alors, oui, là, on verra bien qu'il n'y a rien, il n'y a pas une molécule, une entité que l'on peut dire éternelle. La deuxième caractéristique, c'est la non-existence en soi. C'est-à-dire que tous les phénomènes extérieurs comme intérieurs, ils se mettent en place à partir de tout un ensemble de causes et de conditions. Et cet ensemble de causes et conditions, c'est un ensemble de causes et conditions. C'est-à-dire qu'en général, il n'y a pas une condition qui permet à un phénomène de s'élever, de se mettre en place. C'est tout un ensemble de choses. On pourrait dire qu'il y a, par exemple, un terrain qui permet à ce phénomène de s'élever, sans lequel ce phénomène ne pourrait absolument pas exister, ne pas apparaître. Toutes les situations que l'on vit, il n'y en a pas une qui apparaît comme ça. Si vous n'êtes pas convaincu, essayez de trouver les causes de tel ou tel phénomène, de telle ou telle situation. Le bruit qu'on vient d'entendre, ça c'est un phénomène. Est-ce que ce bruit existe par lui-même ou en lui-même? Ou est-ce que si vous réfléchissez, ce bruit dépend de quoi? Et là, faites la liste. Ce bruit, ça dépend, mais d'une multitude de facteurs. Et si vous retirez ces facteurs-là, ce bruit, ben, il ne pourrait pas être. Par exemple, ça. Qu'est-ce qui est présent pour que ce bruit puisse exister tel qu'il est et pour que vous puissiez l'entendre, le percevoir? Ben, vous allez voir qu'il y en a toute une série, toute une liste de causes et de conditions. Il n'a aucune existence par lui-même. Donc le deuxième élément qui va nous permettre d'aborder la vision pénétrante, c'est l'interdépendance. C'est la réflexion sur l'interdépendance de toute chose. Et c'est une réflexion qu'on connaît intellectuellement, qui peut même être des fois à la mode à certains moments de certains milieux, mais on a du mal à se considérer nous-mêmes comme existants de façon interdépendante. Or, il n'y a pas une seconde de notre existence qui ne dépend pas d'un tel, une telle, de telle condition, de telle personne, etc. On ne peut absolument pas exister une seule seconde sans dépendre de qui que ce soit. Même au niveau de notre conception, il a fallu un papa et une maman. Hein. Sans cela, où est-ce qu'on serait? Et même si demain, par la science, on arrive à ne plus avoir besoin de papa et de maman pour faire un individu, ça sera peut-être possible un de ces jours, il faudra quand même des molécules. Il faudra bien les trouver sur quelque chose. Mais un individu, une situation, un phénomène, un objet n'existe pas comme ça. Donc, il ne peut exister que de façon relative, par interdépendance de tout un ensemble de facteurs. Et la troisième caractéristique, c'est ce qu'on appelle l'insatisfaction. Non pas que le phénomène en lui-même est insatisfaisant, mais si je fixe ce phénomène, si je saisis, si je solidifie ce phénomène, immédiatement, mon esprit expérimente ce qu'on appelle dukkha, c'est-à-dire ce terme sanskrit qui est plus large que souffrance, mais qui traduit à la fois la souffrance physique, la souffrance morale, mais aussi insatisfaction, frustration, mal-être, tous ces facteurs mentaux qu'on trouve, qui s'élèvent et que l'on trouve désagréables. Les choses par elles-mêmes qui s'élèvent par exemple dans notre esprit, les pensées qui s'élèvent dans notre esprit, n'ont pas le pouvoir de nous rendre malheureux, n'ont pas le pouvoir de perturber notre esprit. C'est autre chose qui perturbe. Faites l'expérience. Pensez à une situation que vous avez vécue, non pas à une situation que vous avez vécue récemment, parce que émotionnellement, ça sera trop puissant. Mais une situation que vous avez vécue il y a 10 ans, par exemple, et qui a été douloureuse, on va dire. Faites naître une pensée au sujet de cette situation. Voyez cette pensée qui s'élève, qui naît dans votre esprit, qui traverse l'esprit comme un nuage qui pourrait traverser un ciel complètement dégagé d'été. Et quand vous avez cette pensée présente dans l'esprit, fixez-la, retenez-la, nourrissez-la, entretenez-la. Portez toute votre attention dessus. Crispez-la bien. Et voyez ce qui se passe dans votre esprit. Immédiatement, ce que vous avez ressenti il y a 10 ans en vivant l'expérience, en vivant la situation, ça sera peut-être estompé, mais vous ressentirez à nouveau un malaise, une certaine peut-être douleur, etc. Et maintenant, faites l'exercice avec ce même type de pensée par rapport à une situation de même type, la même ou une autre, peu importe. Mais voyez cette pensée qui traverse l'esprit et voyez-la comme si vous regardiez un ciel d'été et puis vous avez un nuage qui le traverse. Vous voyez le nuage, mais il est complètement insubstantiel et vous arrivez à voir le bleu du ciel à travers le nuage. Donc le fait qu'il y ait un nuage, ça ne vous masque pas l'espace ou le bleu du ciel, si vous voulez. D'accord ? Cette image-là, essayez de la reproduire quand il y a une pensée dans votre esprit. Voyez cette pensée, vous en êtes conscient. Vous êtes conscient qu'il y a cette pensée-là. Mais je vois derrière, je vois plus loin, je vois l'espace derrière, etc. Ne la retenez pas. Voyez, fixez votre attention sur l'espace derrière cette pensée. Et cette pensée-là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va traverser. Elle va totalement disparaître. 3 secondes après, si vous ne la retenez pas, elle a totalement disparu. Et là, vous allez faire l'expérience que cette pensée n'a pas perturbé l'esprit, n'a pas fait naître de la douleur ou n'a pas réveillé, si vous voulez, une expérience douloureuse que vous avez vécue en vivant cette situation il y a 10 ans. Et là, vous commencez à voir que la cause de la souffrance, ce n'est pas le fait d'avoir des pensées ou des facteurs mentaux, c'est le fait de les fixer, c'est le fait de les saisir. Et c'est pourquoi dans beaucoup de textes, comme le texte qu'on avait vu l'an dernier, l'entraînement de l'espoir 7 points, il est dit notre seul problème, c'est la saisie. Mais pourquoi est-ce qu'on saisit les choses ? Parce qu'on ne les voit pas comme étant impermanentes, et on ne les voit pas comme étant non-existence en elles-mêmes. On leur attribue une solidité, une solidification, je ne sais pas, quelque chose de solide, on ne les voit pas comme insubstantielles. Et alors quand elles sont là, c'est quand les pensées s'élèvent, on a tellement eu l'habitude de les fixer dès qu'on en est conscient, qu'on leur attribue une existence par elle-même. Mais non, c'est juste le fonctionnement de notre esprit. Et quand on parle du résultat de la vision pénétrante, on parle de ce résultat en termes de libération. Mais de quoi se libère-t-on ? Mais de la souffrance. On se libère de la souffrance parce qu'on se libère dans cet exercice de la saisie ou de la fixation des phénomènes. Ces deux termes, libération et non-saisie, mais c'est complètement synonyme. On ne peut pas se libérer de la souffrance si on ne se libère pas de cette saisie, de ce mode de fonctionnement égotique qui fixe absolument toutes les choses. Et l'image de la pensée, j'aime bien le terme traverser l'esprit. Ça s'élève et ça traverse l'esprit. Et il y aura toujours des pensées. Nous avons la mémoire, nous aurons toujours des pensées vis-à-vis d'une situation que nous avons vécue. Sinon, on devient anesthésié, on n'est plus des humains. On aura toujours des pensées par rapport au passé. Nous aurons toujours des pensées par rapport à ce que nous allons vivre dans le futur. Mais c'est le même type de pensée. Si nous avons basé notre bonheur intérieur comme étant dépendant des circonstances, dépendant des phénomènes, eh bien, nous pouvons modifier les phénomènes. La bodhicitta relative, c'est ça. Nous modifions la souffrance d'autrui, notre propre souffrance. Si nous sommes malades, eh bien, nous modifions cette condition d'être malade par le fait d'être soigné. Et si nous voyons quelqu'un souffrir, nous modifions cette situation par le fait de soigner cette personne, d'apporter un réconfort. Et ça, bien sûr qu'il ne faut pas cracher dessus. Mais on ne peut pas voir dans ce mode de fonctionnement comme étant les conditions ultimes du bonheur intérieur. Parce qu'il y a des circonstances dont on ne peut pas modifier eh bien, les causes, si nous sommes malades et que c'est incurable, eh bien, c'est incurable, quoi. Comment va réagir notre esprit si toute notre vie, nous avons misé sur notre bonheur comme étant dépendant de circonstances et que nous avons cherché à modifier les circonstances tout au long de notre vie? Le jour où on ne pourra pas modifier les circonstances, comment être libéré de la souffrance à ce moment-là? Et ça fait rire tout le monde, mais j'ai vu dernièrement une vidéo, et je ne vous dirai pas de qui, voilà, mais c'est une femme, elle a 86 ans.
Elle ne parle que comme ça. Elle ne veut plus parler tellement elle est tirée.
C'est-à-dire qu'on se dit, mais si jamais elle éternue, mais alors, ça craque de partout. Ah, mais je vous jure, et c'est impressionnant. Elle a 86 ans, elle n'a pas une ride. C'est-à-dire que tous les deux ans, en général, elle doit passer sur le billard. Et alors, le réalisateur, c'est terrible parce qu'il a fait des gros plans sur les jambes de cette personne, sur les mains de cette personne. Elle est immensément riche, alors elle a de superbes cailloux, mais sur des mains de 86 ans. Par contre, le visage, pas une ride. Mais je vous jure, elle ne peut plus parler, elle va comme ça. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus prononcer. Tellement c'est tiré. Mais alors, ça nous fait sourire, mais en même temps, la souffrance de cette personne par le fait de vieillir. Il y a un jour, vous ne pouvez plus, quoi. La vieillesse, d'accord, c'est peut-être pas drôle. Mais si nous devons vieillir, nous allons vieillir. Si nous avons misé notre bonheur sur la transformation des situations, constamment, oui, on va essayer de transformer les situations. Enfin, ça pose quand même des problèmes. Alors, ça nous fait rire parce qu'on n'arrête pas là. Mais est-ce qu'on ne modifie pas? Est-ce qu'on n'a pas cette tendance à modifier les circonstances de notre vie quotidienne, là, au sein d'une journée, quoi? La personne que je ne peux pas encadrer, la personne qui m'énerve, la personne qui pinaille, la personne qui fait ci, la personne qui... etc. On est constamment, en fait, confronté à des tas de situations, et au lieu de comprendre la nature même de cette situation, eh bien, on essaie de modifier la situation elle-même. Et alors, on se sent mieux quand on a réussi à modifier la situation. Donc, on a bien ce même mode de fonctionnement, c'est-à-dire que notre bonheur, pour nous, dépend, eh bien, de la modification des situations. La maladie. Est-ce que c'est une situation que l'on pourra toujours modifier? Si demain on vous dit, madame ou monsieur, vous avez une maladie et c'est incurable, comment va réagir notre esprit? Est-ce que nous serons libres? Est-ce que notre esprit peut vivre un état de non-perturbation par rapport à cette annonce-là de la maladie? Et un jour, ça risque de nous arriver, quoi. Pratiquer le dharma, c'est pas cuicui les petits oiseaux, tout va bien, tout est beau partout, etc. C'est, oui, faire face à ça. C'est comment entraîner mon esprit à se libérer, à être libéré de ce que, de façon ordinaire, sans cet entraînement-là, eh bien, l'annonce d'une maladie incurable, ça fait naître comme expérience, c'est-à-dire dukkha, dans notre esprit. Quand je disais tout à l'heure que pratiquer le dharma, ça doit nous rendre réalistes par rapport aux situations. C'est une première chose, mais la pratique du dharma doit nous libérer, doit nous permettre de nous libérer de l'impact que la situation, de façon ordinaire, peut faire naître dans notre esprit. Et il y a des tas de circonstances qu'on ne pourra pas modifier. Donc, c'est Ajahn Chah répète, enfin, dès le départ, c'est pas un discours, une approche philosophique de la vacuité. Dans son enseignement, c'est exactement pratiquer, méditer, mettez en pratique, observez, voyez les choses telles qu'elles sont. Et comment elles sont? Elles sont impermanentes, elles sont dépourvues d'existence propre, et lorsqu'on les saisit, il y a dukkha qui apparaît. Voilà, ça c'est trois caractéristiques, il faut absolument les retenir, et les appliquer dans tout ce que expérimente notre esprit en termes de phénomènes. Et à ce moment-là, la saisie gothique, elle aura tendance un petit peu à s'ouvrir. Dans un premier temps, rien ne va bien, vraiment se passer, hein, mais par l'entraînement de l'esprit, eh bien, on verra que petit à petit, tiens, je ne vis pas les choses de façon aussi submergée, en étant aussi submergée par telle ou telle souffrance. Ça ne veut pas dire que ça sera la libération, mais dans un premier temps, on se rendra compte que ce n'est pas une insensibilité qui fait place dans notre esprit. On vit la situation. Mais notre esprit, tout en vivant cette situation, est un peu plus détendu, un peu plus relâché. Il boit moins la tasse. Et ça, c'est vraiment un premier effet, si vous voulez, de la vision pénétrante. Toute chose exactement telle qu'elle est révèle la vérité. Et c'est important ce qu'il dit. Toute chose exactement telle qu'elle est révèle la vérité. Quelle est la vérité de toute chose? C'est que ces choses sont impermanentes, dépourvues d'existence propre et insatisfaisantes. Donc toute chose révèle cette vérité. Et la vérité n'est pas à trouver ailleurs. Quand on parle de vérité, de bodhicitta ultime, d'éveil, etc. Mais c'est ça. C'est faire l'expérience de cela. C'est pas être dans un état second, angélique, on vit une espèce de, d'état complètement. Vous savez, je vous avais peut-être raconté que une fois en Inde, on était en pèlerinage dans un bus, et le chauffeur du bus s'était trompé, et alors ça faisait 17 heures qu'on était dans le bus, et on en avait marre. Et alors il y a une personne qui a la conception d'être dans le Mahamudra tout le temps. Hein. Je suis touché par rien, je suis dans le Mahamudra. Et alors, à un moment donné, elle est tout sourire, tout comme ça, et c'est complètement artificiel cet état-là. Alors à un moment donné, elle me dit, Mme Tsiltri, vous êtes dans le Mahamudra? Je lui dis non, je suis dans le bus, et j'en ai ras le bol. Parce qu'après 17 heures de bus dans les montagnes indiennes, vous savez, même si vous êtes dans le Mahamudra, vous en avez ras le bol. Vous avez envie de vous poser, de manger, et d'aller prendre une douche. Voilà. Mais on trouve beaucoup de pratiquants. Et quand ils sont pratiquants du Mahamudra, ils sont là comme ça. La maison brûle, mais il n'y a pas de problème. Tout va bien, quoi. Mais c'est pas être dans le Mahamudra, c'est être dans un esprit idiot. Donc toute chose exactement telle qu'elle est révèle la vérité. Mais nous avons des préjugés, des préférences sur la façon dont nous voudrions que les choses soient. Nous pratiquons pour devenir comme le Bouddha, c'est-à-dire celui qui connaît le monde. Et le monde, ce sont ces phénomènes exactement tels qu'ils sont. Les objets mentaux qui apparaissent à l'intérieur et à l'extérieur sont appelés phénomènes sensoriels ou activités mentales. Quant à ce qui est conscient des phénomènes, on peut le nommer comme on veut, mais nous dirons ici l'esprit. Donc quand on parle de l'esprit, c'est ça. Et le Bouddha utilisait une expression, l'esprit c'est ce qui sait, ce qui connaît, en fait. Et c'est pour ça il cite cette expression-là. Le phénomène est une chose, et ce qui sait en est une autre. C'est comme l'œil et les formes qu'il voit. L'œil n'est pas les objets, et les objets ne sont pas l'œil. L'oreille entend des sons, mais l'oreille n'est pas le son, et le son n'est pas l'oreille. Tout le monde est d'accord. C'est quand il y a contact entre les deux que les choses se produisent. Bon. Alors, quand il y a contact entre les deux que les choses se produisent, eh bien là, il faut faire l'expérience, et c'est, alors, premier exercice que vous avez à faire ce mois-ci, c'est de repérer les trois caractéristiques des phénomènes qui s'élèvent. Et le deuxième exercice, parce que ce mois il y en a deux, le deuxième exercice, c'est de repérer ou d'observer le fonctionnement de l'esprit lorsque, par l'intermédiaire d'une conscience, notre esprit entre en contact avec un objet. Et vous pouvez prendre n'importe quel fonctionnement n'importe quelle conscience qui fonctionne, mais prenez par exemple la conscience visuelle, parce qu'en tant qu'être humain, la conscience visuelle donne un impact très fort sur notre esprit en tant qu'humain. Un chien, ça serait plutôt la conscience olfactive. Mais pour nous, la conscience visuelle est très importante. On fonctionne beaucoup par la vue. Bon. Faites l'expérience. Promenez-vous dans une rue et observez ce qui se passe lorsque votre conscience visuelle entre en contact avec un objet dans une vitrine. Vous passez devant une vitrine, vous observez un objet, ça c'est contact. Qu'est-ce qui se met en place dès qu'il y a contact?
Une pensée?
Non. Une sensation. Après le contact, c'est la sensation. On étudie ça dans ce qu'on appelle les 12 causes interdépendantes, ou la production conditionnée. Donc quand il y a contact, il y a immédiatement une sensation. C'est automatique. Ça se passe à cette vitesse-là. Combien de sortes de sensations y a-t-il?
Trois.
Qui a dit trois? Ouais. Voilà. Plaisante, déplaisante ou neutre. Et il n'y en a pas 36. Il n'y en a que 3. D'accord? Observez. Observez demain, amusez-vous. Dès que vous voyez un objet, essayez de repérer la sensation que fait naître ce contact avec cet objet. Bien. Après la sensation, il y a la soif qui se met en place dans l'esprit. Tana en sanskrit. Et la soif, on traduit ça par la volition. C'est-à-dire que c'est un mouvement de l'esprit qui n'est pas conscient, qui n'est pas décidé, mais qui est automatique. Et cette soif, le Bouddha disait que c'était une énergie extrêmement puissante. Dans le cas d'une sensation agréable, la soif, c'est la volition, hein, ou le fait de vouloir que cette sensation se prolonge. Et ça, c'est automatique. Dans le cas d'une sensation désagréable, c'est la volition que cette sensation cesse. Et dans le cas d'une sensation neutre, il y a une volition, mais qui est pratiquement imperceptible à ce niveau-là. Mais elle existe parce qu'elle va engendrer ce que la volition va engendrer. Après la soif, après cette volition, c'est la saisie qui s'est établie dans l'esprit. Et cette saisie, elle est plus grossière que la soif. C'est-à-dire que la soif, si elle est imperceptible, la saisie, on peut la percevoir. On peut savoir à quoi ça ressemble. La saisie par rapport à la soif, si la soif c'est « je veux que cette sensation agréable se prolonge », la saisie c'est « comment faire pour qu'elle se prolonge ?» Donc c'est une mise en place d'une stratégie déjà dans l'esprit pour que cette sensation agréable, elle se prolonge. Et ça, c'est déjà plus grossier, on arrive à être conscient de ça. Dans le cas d'une sensation désagréable, c'est comment faire, la saisie, c'est comment faire pour que cette sensation désagréable cesse. Donc, il y a un mouvement dans l'esprit qui échafaude un plan, déjà. Plan d'action. Et la saisie, si elle s'élève dans l'esprit, elle fait naître ce qu'on appelle le facteur perturbateur. Dans le cas d'une sensation agréable, c'est le désir, l'attachement, l'avidité. Mais ça devient, on se focalise sur cet objet. C'est vraiment, comment faire pour vraiment l'avoir, quoi. Mais là, je commence à échafauder un acte pour avoir. Et je commence à me laisser prendre, est-ce que j'en ai vraiment besoin, pas besoin, mais pourtant, si, j'en ai rien. Voilà. Et dans le cas d'une sensation désagréable, eh bien là c'est qu'est-ce que je mets en place pour que cette sensation elle cesse. Donc c'est l'aversion dans ce cas-là qui se met en place. Dans le premier c'était l'avidité, le désir, l'attachement. Dans le deuxième cas c'est l'aversion, le rejet, avec toutes les manifestations que ça peut entraîner. Dans le cas d'une sensation neutre, c'est l'indifférence qui se met en place à ce moment-là. Je suis pas touché, ni je veux, ni je rejette. Je passe à côté, je vois rien. Et l'indifférence, en fait, ce n'est pas la stabilité ou le calme de l'esprit. L'indifférence, c'est vraiment un facteur perturbateur, comme le désir et comme l'aversion. Et quand ce facteur perturbateur s'élève et prend toute la place dans l'esprit, eh bien, on entre dans la boutique et on achète l'objet. C'est-à-dire, on agit. ou est l'acte, ce qu'on appelle un acte juste. Dans ce type d'acte, on voit que cet acte, il répond à tout un enchaînement d'étapes et que, en fait, comme dit Ajahn Chah, on est complètement esclave de cette étape, de cet enchaînement d'étapes. C'est pourquoi l'éveil, on appelle ça la libération. On se libère, en fait, de tout cet enchaînement, de tout ce fonctionnement, ce mode de fonctionnement. Et pour se libérer, on va agir sur la saisie directement. Parce que la saisie, on arrive à la percevoir dans notre esprit, mais elle n'a pas, comment dire, c'est pas un maillon qui devient trop puissant dans l'esprit et qui peut vraiment nous submerger, par exemple, comme le facteur perturbateur qui peut s'élever après. Quand on est en plein sous l'emprise de la colère, on ne peut plus agir sur ce fonctionnement de l'esprit. Mais par contre, sur la saisie qui va entraîner l'apparition de la colère, là, on peut encore agir. C'est pour ça qu'on va mettre l'accent, pour la pratique, sur la saisie, sur ce maillon-là. Non. Après. Donc, mettez-la au chaud. Et... Donc, notre attitude par rapport aux cinq agrégats, les agrégats de l'existence que sont le corps, les sensations, les perceptions, les pensées et la conscience sensorielle, cet ensemble corps-esprit que nous avons là devrait être objectif et détaché, tout simplement parce que ces éléments ne se conforment pas à nos vœux. Et dit Ajahn Chah, je trouve que c'est une raison suffisante. S'ils survivent, nous ne devrions pas nous en réjouir outre mesure, au point de perdre toute attention, parce que de toute façon, ces agrégats sont tous impermanents. Et s'ils se désagrègent, nous ne devrions pas trop nous en désoler, et prendre conscience de cela devrait suffire. Que nous pratiquions la méditation de la vision intérieure ou la méditation de la tranquillité, c'est seulement de cela qu'il s'agit. Voilà, ça c'est le cœur de notre pratique. Et c'est pourquoi on appelle ça la vision pénétrante, parce qu'on voit la réalité des choses. Et c'est cette vision pénétrante, cette pratique-là, qui permet la libération. Le calme mental, shiné, shamatha, ça ne permet pas la libération. On a besoin de la non-distraction, de l'apprentissage, de la vigilance et de la non-distraction pour pouvoir observer ce qui se passe dans notre esprit. Mais ce calme mental n'est pas suffisant pour déraciner la saisie égotique. C'est la vision pénétrante qui déracine. Mais de nos jours, il me semble que lorsque les bouddhistes parlent de ces choses selon les explications traditionnelles, cela devient vague et confus. Or, la vérité n'est ni vague ni confuse. Elle demeure telle qu'elle est. C'est pourquoi mon sentiment est qu'il vaut mieux remonter à la source en observant la façon dont les choses apparaissent dans l'esprit. Et il n'y a là rien de bien compliqué. Ben oui, il faut observer. Observer son esprit. Bhikkhu Rinpoché nous disait, si vous ne pouvez pas méditer des heures, parce que vous n'avez pas les conditions pour méditer des heures, 6 heures de méditation chez vous, mais profitez d'un temps de méditation quotidien pour réentraîner vraiment l'esprit, mais une fois que vos 20 minutes de méditation sont terminées, ne laissez pas l'esprit constamment faire ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire, maintenez quand même la vigilance. Et qui va nous permettre de voir ce qui se passe dans l'esprit. Dès que vous avez un petit moment, une minute de tranquillité, une minute de solitude, vous attendez le bus, j'en sais rien, vous êtes même en train de faire vos courses, etc. Vous n'êtes pas en train de parler à quelqu'un. Tout en faisant ce que vous avez à faire, observez votre esprit. Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Qu'est-ce qui s'élève dans mon esprit par rapport à l'endroit où je me situe, par rapport à la situation dans laquelle je suis, par rapport même aux personnes que je rencontre? Et ce qui s'élève à ce moment-là dans l'esprit, voyez-le à partir de ces trois caractéristiques. Et voyez ce qui se passe. Par cet entraînement, voyez ce qui se passe. Et si vous méditez comme ça 500 fois dans votre journée, juste quelques secondes, mais vous méditerez 500 secondes. Il faut absolument qu'on adapte notre façon de pratiquer si nous n'avons pas la possibilité de méditer 12 ou 14 heures par jour dans une caisse de méditation, quoi. Il faut que cette vigilance, cette observation de l'esprit soit, eh bien, la plus fréquente possible. Alors à vous de trouver des plages comme ça, mais ne serait-ce que 30 secondes ou une minute, mais dites-vous, tiens, qu'est-ce qui se passe là dans mon esprit ? Vous pouvez le faire même quand vous écoutez quelqu'un ou quand vous parlez. Vous avez une partie de l'esprit qui sait ce qui se passe dans l'esprit. Et ce n'est pas une tension, c'est un état d'attention, un état de connaissance de ce qui est. Joignez la sagesse à ça, c'est-à-dire la reconnaissance de ces trois caractéristiques à ce qui s'élève dans l'esprit. Et ça, c'est vraiment la pratique de l'Aktang, de la vision pénétrante. Il est dit, ce monde d'être régi par le vieillissement et l'impermanence ne dure pas longtemps. Le mot « être » se réfère à nous. On nous appelle des êtres humains. Il y a des êtres différents de nous, comme les animaux, le bétail et la volaille, par exemple, mais pour tous, le vieillissement est une réalité d'existence. Tous doivent subir la dégradation des divers composants du corps physique. Les choses changent sans cesse. Elles n'ont pas la liberté de demeurer stables. Elles doivent suivre le même chemin que tous les phénomènes conditionnés. Et ça, que ça nous plaise ou pas. Le monde des êtres est ainsi, et nous nous retrouvons toujours insatisfaits. Nos sentiments d'amour et de haine ne nous apportent jamais satisfaction. Nous n'en sommes jamais rassasiés. Et d'une manière ou d'une autre, des obstacles surviennent qui nous empêchent d'en avoir plus. On est en vacances, on en a marre d'être en vacances, on travaille, on voudrait rentrer en vacances, il fait nuit, on voudrait qu'il fasse jour, il pleut, on voudrait qu'il fasse soleil. Enfin, il y a toujours, toujours une insatisfaction permanente, mais parce que on n'accepte pas que les choses sont comme elles doivent, comme elles sont, quoi. On fonctionne vraiment comme ça, quoi. Même quand il y a des choses qui vont très bien, comme on sait, comme on sent que ça ne va pas durer, il y a une partie de l'esprit qui est déjà dans la fin de cette situation agréable, au lieu de la vivre pleinement dans l'instant présent, en se disant, oui, ça ne va pas durer, mais pour le moment, elle est là, parce que, voilà, tout va bien, j'en profite. Hein? En termes simples, comme on dit chez nous, nous sommes des gens qui n'en savent pas assez. Nous ne sommes pas satisfaits d'être ce que nous sommes. Ainsi, notre esprit s'agite constamment, passant d'un état agréable à un état désagréable, en fonction des phénomènes qu'il rencontre. Comme une vache qui ne serait pas satisfaite de sa propre queue. Ça doit être un proverbe thaïlandais, je ne sais rien. Mais voilà, vous pouvez vous souvenir de cette image. L'esprit étant ainsi agité, nous sommes toujours dans cet état d'insatisfaction, quoi qu'il arrive, et nous devenons esclaves du désir. Ben oui, on veut toujours quelque chose d'autre. Être esclave est un état de grande souffrance. Un esclave doit toujours obéir à son maître, même quand celui-ci lui ordonne de faire une chose qui met sa propre vie en danger. Pourtant, du fait de notre avidité, nous sommes toujours impatients et ravis de suivre les ordres du désir. Est-ce que dans ce mode de fonctionnement, on se considère vraiment esclave du désir, par exemple, et puis tant d'autres choses? Mais si vraiment on avait cette expérience d'être soumis à ce mode de fonctionnement, d'être esclave, si vous voulez, de ce mode de fonctionnement, on chercherait peut-être vraiment à s'en libérer, quoi. Si vraiment nous étions esclaves, hein, dans une situation quelconque, vous savez, je crois qu'on chercherait vraiment une porte de sortie, hein, à cet état. Du fait de l'habitude que nous avons de chérir notre moi, hein, cette saisie, nous sommes réduits à l'esclavage. En réalité, le monde des êtres n'a pas de maître. Nous régnons nous-mêmes sur notre propre vie, parce que nous avons le pouvoir de décider de bien agir ou de mal agir, et personne ne le fait pour nous. Ça, c'est une autre réalité, hein, de la pratique. Nous n'avons rien à attendre de qui que ce soit. Nous pouvons baser notre confiance que sur nous-mêmes. Alors qu'est-ce que nous pouvons attendre de la présence d'un maître, par exemple, d'un Rinpoche quand il vient enseigner? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Est-ce qu'on peut attendre la libération? Non. Si on attendait la libération, d'un tel maître, du Dalai Lama par exemple, et elle entend que tous les êtres seraient libérés. Parce que c'est vraiment la motivation de tous les grands bodhisattvas que les êtres soient libérés de la souffrance. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre ?
Une meilleure compréhension du dharma.
Ouais, une meilleure compréhension du dharma, de tout, d'être inspiré pour la pratique, de retrouver de l'énergie pour la pratique. Oui, ça, d'accord. Et vous savez, c'est ce qu'on appelle, et ça, peut-être qu'on en a parlé ici, je ne sais plus, mais quand on dit, on reçoit la grâce ou les bénédictions de tel maître. Il y a des gens qui croient que recevoir la grâce, c'est que lorsque le Dalai Lama, par exemple, pose sa main sur notre tête, il y a une espèce d'éclair, d'éveil qui traverse tout notre corps, et on se retrouve, ah, je suis complètement Bouddha, complètement éveillé. Franchement, ça ne se passera jamais de cette façon-là. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'on a reçu la grâce de notre maître, par exemple, si on a une connexion très forte avec un Rinpoche? C'est si on ressent davantage l'énergie pour pratiquer sur notre esprit. Si on ressent davantage de compassion pour les êtres. Si on se dit, oui, je reprends mes engagements que j'avais pris, qui se sont complètement effilochés, là je retrouve mes engagements, je retrouve de l'énergie pour la pratique, j'ai envie de méditer, j'ai envie d'étudier le dharma, de mieux comprendre le dharma. Ça ne dure pas trop longtemps en général, ça, cette énergie-là. C'est pour ça qu'il est important de rencontrer des maîtres. Mais leur présence, elle sert à ça, à la transmission du dharma et à la transmission de la grâce. Et la grâce, mais c'est ça, ce n'est pas autre chose. Dites-vous que lorsque vous... S'il y en a qui viennent, par exemple, pour le week-end prochain, il y a Mucho Rinpoche. Si, à la fin du week-end, vous vous dites, j'ai compris ça, j'ai vraiment envie, tiens, de retrouver mon coussin, de mettre en pratique cet aspect-là du dharma, il faut que je prends l'engagement de méditer 20 minutes, etc. Mais soyez heureux en rentrant ici, quoi. Dites-vous, mais j'ai reçu la grâce de la présence de ce maître. C'est ça, recevoir la grâce. N'attendez pas qu'il se passe quelque chose dans votre esprit, parce que ça, c'est, on attend un miracle. Et à ce moment-là, on n'avance pas d'un iota. Nous sommes complètement responsables de notre pratique. Le Bouddha disait, vous n'avez qu'un seul maître, vous-même. Et c'est vrai. Ce monde des êtres ne possède rien et rien n'appartient à personne. Quand nous voyons cela correctement, nous lâchons prise et nous laissons les choses être telles qu'elles sont. Entrer dans ce monde et comprenant ses limites, nous faisons simplement ce que nous avons à faire. Le seul bienfait que nous recherchions est d'accumuler les paramitas, c'est-à-dire les perfections spirituelles, pour aider les êtres. Donc c'est assez simple ce qu'il y a à faire. Il faut entraîner notre esprit. Mais c'est le cœur de la pratique. Ça, c'est le cœur de la pratique. Rinpo Rinpoche n'enseigne pas autre chose. Tous les moyens que nous pouvons trouver, par exemple, dans le Vajrayana, les yidams, les visualisations, la récitation de mantras, etc. C'est pourquoi ce sont des moyens qui nous ramènent à cet instant présent. Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Est-ce que là, dans cet instant présent, par rapport à ce qui se passe, je peux lâcher? Si je ne peux pas lâcher, c'est parce que je ne vois pas l'impermanence de ce qui se passe. Je ne vois pas la non-existence propre de ce qui se passe. Et si je ne lâche pas, oui, c'est vraiment insatisfaisant. Mais notre pratique, c'est ça. C'est dans l'instant présent. Pourquoi les Tibétains, par exemple, nous demandent d'accumuler des millions de mantras? Si on est dans la pratique du refuge, par exemple, de manifester cette confiance dans les trois joyaux par 100 000 grandes prosternations. Vous pensez que parce qu'on s'est prosterné 100 000 fois, alors, à la fin, 25% d'éveil parce qu'on a rempli le contrat? Non. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une prosternation, on doit être dans l'instant présent, en train de lâcher ce qui se passe dans l'instant présent. C'est ce que veut dire la prosternation. J'abandonne. Je m'abandonne. C'est-à-dire je lâche. Et si je fais cette pratique-là 100 000 fois, en lâchant ce qui se passe dans l'instant présent, il y a une certaine stabilité à ce lâcher prise qui va s'installer. C'est pourquoi on nous demande de faire beaucoup. Mais c'est pour vivre beaucoup de fois l'instant présent tel qu'on doit le vivre. C'est pour que la stabilité de l'expérience, eh bien, par cette répétition, elle s'installe. Et c'est pas du tout parce qu'on en aura fait 100 000 que, en pensant à autre chose, qu'on aura un résultat au niveau de l'esprit. Si on et que vous soyez dans le Vajrayana tibétain, que vous soyez dans le bouddhisme zen, pourquoi dans le Zen Soto on médite face à un mur? C'est un moyen que cette école a mis en place pour travailler sur l'instant présent dans ce qui se passe au niveau de l'esprit. Pourquoi il y en a un qui se balade avec un kyosaku, là, un bâton, et qui vous donne un coup sur l'épaule de temps en temps? C'est parce que vous n'êtes plus dans l'instant présent. C'est pour retrouver l'instant présent. Mais ce ne sont que des moyens. Quel que soit le moyen que vous utilisez dans votre pratique, mais peu importe, ce moyen, il doit vous aider à être dans l'instant présent et à lâcher ce qui s'élève dans l'instant présent. C'est tout. Et c'est pour ça que ils disent, mais c'est le cœur de la pratique. Il n'y a rien d'autre à faire. Des questions?
J'essaie de comprendre dans quel état l'esprit peut se trouver quand il analyse. C'est-à-dire, admettons, on passe devant une vitrine, admettons, quand c'est. Bon, je sens une évolution dans ma manière de voir les choses. C'est plus un sentiment de je m'en fiche, quoi. Après tout, je l'ai pas, peu importe, c'est pas ça qui va faire que je serai plus heureuse. C'est plus ça. Alors, c'est pas un sentiment de satisfaction ou d'insatisfaction neutre. Je sais pas encore où le situer exactement.
Alors, vous
c'est
devez.
C'est pas de la neutralité comme si. Enfin, j'analyse le processus qui se passe dans l'esprit.
Ouais, ouais.
C'est sûr, admettons cette paire de chaussures-là, elle est jolie, je la porterai bien, mais au final, si ça se trouve, je ne les mettrai jamais parce qu'il n'y aura pas de circonstances qui feront que je les mettrai ou j'aurai la flemme. Alors au final, qu'est-ce que ça apporte de plus que je les ai que je les ai pas? Ça ne va pas me rendre plus heureuse.
D'accord. Mais est-ce que ça, c'est du détachement ou de l'indifférence?
Eh bien, justement, j'essaie d'analyser.
Parce qu'il y a une différence entre les deux.
Et j'essaie de voir justement cette infranince là.
Dans le détachement, la sagesse est présente. C'est-à-dire, synonyme là de sagesse, il y a une compréhension de ce qui se passe au niveau de votre esprit. Dans l'indifférence, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de compréhension. En gros, vulgairement, vous vous en foutez de ce que vous voyez dans l'indifférence. Et ça, c'est pas du détachement. Dans le détachement, vous auriez presque le choix d'entrer dans la boutique ou de ne pas entrer. Il y a une liberté dans le détachement qu'il n'y a pas dans l'indifférence. C'est pourquoi l'indifférence est vue comme un facteur perturbateur. Parce que dans une autre situation, où l'objet en question, ça sera une personne qui souffre. Dans le détachement, il y aura de l'amour et de la compassion. Et vous trouverez des moyens pour aider la personne, en fonction de ce que vous pouvez faire, évidemment. Que dans l'indifférence, non, vous n'êtes pas touché par la souffrance de cette personne.
Oui, ben là, c'est vrai que c'est différent entre un objet et une personne.
Alors, par rapport à un objet, c'est difficile de voir un peu la différence entre les deux. Mais si vous faites ce même raisonnement au niveau du fonctionnement de l'esprit, mais par rapport à une situation, eh bien, vous verrez que vous trouvez des moyens pour répondre à la situation dans le détachement. Et souvent, les gens pensent qu'être détaché, c'est devenir passif. Pas du tout. C'est pas du tout être passif. C'est dans l'indifférence où on est passif. On n'est pas touché, par exemple, par la souffrance de l'autre. On ne la voit pas, on ne la ressent pas, on n'est pas touché, etc. Et on passe à côté. C'est pas vraiment une forme de rejet parce qu'il n'y a pas vraiment d'aversion. C'est, vous savez, l'expression ça ne me concerne pas.
dehors.
Oui, oui. Et c'est pour ça, et c'est exactement le terme, hein, on appelle ça l'ignorance ou l'opacité mentale, l'indifférence. C'est vraiment une opacité, quoi. C'est un voile qui nous empêche de voir, de comprendre, et qui empêche les qualités de se manifester. Alors que dans le détachement, les qualités, elles sont libérées, justement. Elles ont une énergie qui est totalement libre, parce qu'il n'y a pas de saisie, il n'y a pas d'implication égotique dans l'action. Hein? C'est bien le genre de question, parce que c'est vraiment là où on peut situer ce qui fait la différence entre l'indifférence et le détachement.
Parce que c'est pas évident conceptuellement.
Ouais, ouais.
Saisir, justement.
Oui, tout à fait.
Est-ce que dans le détachement, il n'y a pas aussi une sorte d'action spontanée enfin, je veux dire, la réponse, elle est évidente.
C'est ça.
Quoi.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas. Est-ce que je vais faire ça ou est-ce que je ne vais pas faire ça ou...
Ouais,
ouais. Il y a comme quelque chose qui s'élève et qui est une sorte d'évidence.
Qu'il n'y a pas dans l'indifférence. Hein, il n'y a pas d'action dans l'indifférence. Tout à fait. Ouais. Alors, une personne tout à l'heure me demandait au sujet du refuge. Parce que vous savez, Motchon Rinpoche vient ce week-end, pour ceux qui viennent à Luce. Et Motchon Rinpoche, il y a une modification, je ne sais pas si tout le monde a reçu, mais dans le programme, le dimanche après-midi, il n'y a pas une session d'enseignement, il y a une initiation à la pratique de Vajrasattva. Alors, pour recevoir une initiation, il faut avoir pris refuge. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas envie de prendre refuge tout de suite, il y aura des initiations plus tard, quand un autre jour, un Rinpoche donnera des initiations. La prise de refuge, c'est pas une formalité pour pouvoir recevoir une initiation. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut voir le refuge. Le refuge, c'est un engagement. Le refuge, c'est je reconnais la voie bouddhiste. Selon Bouddha, Dharma et Sangha, ces trois éléments qu'on appelle les trois joyaux, je reconnais que cette voie-là correspond à ce que je recherche spirituellement. Et je prends refuge, c'est-à-dire je place ma confiance dans ces trois joyaux. C'est-à-dire c'est un acte de confiance, c'est pas une simple formalité. Le Bouddha, c'est je place ma confiance dans, pas le Bouddha historique, parce que le Bouddha historique, il a montré le chemin. Mais ça c'est vraiment l'aspect extérieur du refuge. Mais je place ma confiance dans ces potentialités qui est ma nature de Bouddha et que je peux développer jusqu'à son plein épanouissement. Je reconnais cette nature de Bouddha en moi. C'est pour ça que cette méditation tout à l'heure, je l'ai fait faire. Parce que on prend refuge dans le Bouddha, bah oui, c'est en soi-même qu'on prend refuge, en cette nature de sagesse. Et pour développer cette nature de sagesse, on a besoin d'un chemin, on a besoin de suivre une voie. On a besoin du Dharma. Donc, le refuge dans le Dharma, dans la voie elle-même, dans l'enseignement, vient après. Comment, quel est le chemin par lequel je peux développer cette nature de Bouddha? Et ça, c'est quelque chose que vous devez expérimenter. Si vous venez régulièrement aux enseignements, pourquoi je dis il y a des exercices à faire? Il n'y a pas d'exercice et vous êtes assez grand, vous faites comme vous voulez. Mais si vous voulez expérimenter l'enseignement lui-même, expérimentez-le. Parce qu'il n'y a pas à croire qui que ce soit dans le Dharma, dans la pratique du Dharma, il n'y a pas à croire ça parce que le Bouddha l'a écrit ou parce que tel maître l'écrit. La confiance dans le Dharma, elle se base sur notre expérience, sur notre compréhension, non pas intellectuelle, mais en termes d'expérience. Si je pratique ce qui est dit par exemple ce soir, si j'essaie de mettre en pratique ça pendant le mois, qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Et s'il se passe quelque chose, alors, je peux peut-être avoir confiance dans cet aspect de l'enseignement. Donc, quand on parle de refuge dans le Dharma, c'est avoir une confiance dans le Dharma, mais une confiance qui se construit par notre étude, par notre réflexion et par notre pratique. On voit, on constate, on expérimente que la pratique du Dharma, ça change quelque chose dans mon esprit. Ouais. alors là, je peux vraiment avoir confiance et je peux prendre refuge dans l'âme. Et le troisième refuge, c'est le refuge dans la Sangha, c'est-à-dire en fait dans les maîtres qui aujourd'hui transmettent cette expérience-là. C'est-à-dire, en gros, dans la tradition tibétaine, les Rinpoche. Parce que je sens chez eux, je constate, j'expérimente chez eux, eh bien qu'ils ont réalisé cette libération, qu'il n'y a plus de saisie égotique, que leur amour est vaste, équanime pour tous les êtres, et que ce que le Bouddha a réalisé il y a 2500 ans, eh bien, eux l'ont réalisé, et ils peuvent, comme le Bouddha l'a fait, aujourd'hui, ils peuvent, eux, transmettre cette réalisation et le chemin pour le suivre, mais de façon juste et en évitant les obstacles. Et ça, c'est le refuge dans la Sangha. Et ce refuge dans ces trois joyaux, c'est ce qui marque l'entrée dans la voie. Et dans le Vajrayana, dans le bouddhisme tibétain, le mode de transmission des pratiques, c'est par le biais d'initiation. Or, pour recevoir une initiation, eh bien, il faut être déjà dans la voie. Il faut avoir passé l'étape, si vous voulez, du refuge. Mais moi, je ne conseille pas à quelqu'un, parce que cette personne veut prendre cette initiation, alors de prendre refuge juste avant le rituel d'initiation, parce qu'il y a toujours, en général, un rituel de refuge. Nous ne sommes pas d'une famille ou d'une civilisation bouddhiste. Pratiquez, étudiez le dharma, méditez, mettez-le en pratique. Et le jour où ça vous devient évident que cette voie-là est vraiment la voie qui, en laquelle vous pouvez avoir confiance et qui peut transformer votre esprit, alors à ce moment-là, vous demandez à prendre refuge. Mais c'est un engagement qui doit venir de vous-même, qui doit avoir du sens pour vous. Et on parle de prise de refuge, c'est pas une traduction correcte, c'est aller en refuge, ce qui montre bien que c'est un mouvement de notre part pour entrer dans la voie. Personne ne doit nous obliger à entrer dans cette voie, personne. Il n'y a pas de prosélytisme, il n'y a pas de conversion à faire à qui que ce soit. Les personnes sont libres et elles doivent être libres de sentir que, ouais, cette voie-là, c'est celle qui me convient. Eh bien, je vais dans la voie. Je m'engage dans la voie. Et ça, c'est ce qu'on appelle, à ce moment-là, le refuge. Donc, pour moi, ça doit avoir du sens. Et on a la chance d'avoir cette liberté de choix à notre niveau. Nos parents ne nous obligent pas, personne ne nous oblige. Donc, si un jour, pour les personnes qui pensent au refuge, si un jour vous prenez refuge, mais que ce soit quelque chose d'important, que ça ait du sens pour vous. Ce n'est pas une simple formalité, parce qu'il y a Rinpoche qui vient donner une initiation, donc il faut que je prenne refuge. Donc, hein. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Les initiations, il y en a tout le temps. Chaque fois qu'un Rinpoche vient, on peut lui demander de donner des initiations. Si vous ne recevez pas celle-ci, vous en recevrez d'autres. Si vous êtes inscrit pour dimanche après-midi et que vous ne pouvez pas recevoir l'initiation, le centre vous rembourse, il n'y a pas de problème pour ça au niveau de la session d'enseignement qui était prévue initialement le dimanche après-midi.
Et moi, j'ai une question, c'est quoi une initiation?
C'est une transmission, c'est une transmission de l'influence spirituelle qui passe par un rituel spécifique au niveau d'une pratique. Toutes les pratiques propres au Vajrayana doivent être en fait transmises par l'initiation. C'est-à-dire que symboliquement, le lama qui donne l'initiation, il se visualise sous l'aspect du yidam, c'est-à-dire de la déité entre guillemets dont il va transmettre l'initiation, et par des gestes symboliques, par un rituel bien précis, et des visualisations que la personne en face doit faire, il y a cette transmission d'une puissance, si vous voulez, spirituelle. En tibétain, l'initiation se dit wang, et wang, c'est littéralement la puissance, le pouvoir. C'est une transmission de puissance spirituelle. Et ça, dans toutes les sociétés initiatiques, c'est-à-dire dans le mode de transmission et initiation, en fait, il y a ces rituels de transmission, aussi bien dans des voies initiatiques occidentales ou orientales, peu importe. Et ce qui caractérise ensuite une voie initiatique, c'est le mode de transmission par initiation. Et il y a deux autres choses qu'on retrouve dans toute voie initiatique, c'est le symbolisme. Le langage d'une voie initiatique, c'est le symbole. Donc c'est pourquoi dans un temple tibétain, tout est symbole. Et le troisième élément, c'est le rituel. C'est-à-dire on ritualise pour mettre en action ou en activité l'ensemble des symboles que l'on utilise à ce moment-là lors de cette méditation ritualisée. Voilà.
J'avais une question par rapport à ce que vous avez exposé avant. Lorsqu'une personne vit une maladie grave ou très grave, et ensuite, momentanément ou pour quelques décennies, s'en sort, est-ce que à ce moment-là, lorsqu'elle la remercie, est-ce que c'est le fait de ne pas avoir saisi, ou alors, quand elle remercie cette expérience pour sa construction elle-même, à quoi ça correspond, est-ce que vous pouvez expliquer par rapport aux trois bases, c'est-à-dire la première, c'était
la permanence.
Heureusement, elle s'est montrée impermanente. Ouais. La deuxième,
la non-existence
propre. Donc, il y a certainement un enchevêtrement qui a donné lieu à ça. Ouais. Et puis la troisième.
Si j'ai saisi, il y a Dukkha qui apparaît. Ouais. Ouais. Mais je crois que là, si on remercie, ça ne veut pas forcément dire qu'on est libre de la saisie. Mais on voit dans l'interdépendance, dans la compréhension de l'interdépendance de toute chose, que cette situation, cette maladie, par exemple, bon, ça m'a permis de comprendre, de voir la vie autrement, de comprendre, de tirer un enseignement, d'avoir traversé cette épreuve. Et donc, on peut voir effectivement cette maladie comme un maillon qui m'a servi et qui me permet d'être autrement et d'avancer sur un chemin intérieur. Donc à ce moment-là, oui, il peut y avoir un sentiment de gratitude.
Oui, mais à quoi correspond-il ?
Ce sentiment de gratitude ?
Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller au-delà de ça ? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on remercie ou à quoi fait-il référence ? Ou quel entre guillemets, là, j'utilise un autre sens du mot phénomène, quel processus a été mieux que phénomène, quel processus a été engendré pour qu'il y ait ensuite
peut-être une compréhension plus développée de cette loi qu'on appelle l'interdépendance de toutes choses. On voit que les choses ne peuvent pas être vécues séparément. Les choses entraînent des effets, entraînent d'autres choses, et que cette personne, elle peut vivre quelque chose aujourd'hui parce qu'elle a traversé cette maladie. Donc, cette compréhension de l'interdépendance fait que, eh bien, elle peut avoir de la gratitude par rapport au fait d'avoir été malade. Ouais. Et c'est très bien de voir cette notion d'interdépendance. Parce que quelquefois, vous savez, on vit une situation, puis quand elle se termine, on se dit, ouf, bon, on va terminer. Et on a oublié, on passe à autre chose. Mais il faut tirer une compréhension d'avoir vécu telle ou telle situation. Il n'y a rien qui... Comment dire ? Dans cette loi d'interdépendance, on comprend qu'il n'y a rien qui ne nous modifie pas, qui ne nous est pas utile pour nous modifier intérieurement. Même si nous avons vécu avec telle personne, que ça s'est très mal terminé, par exemple, ok, ça peut être source de douleur, de souffrance, etc. Mais à un moment donné, il faut se dire, qu'est-ce que je peux tirer comme compréhension de cette situation-là ? Il y a des situations, c'est difficile de tirer un effet bénéfique d'avoir traversé cette situation. Mais ça nous construit, comme vous disiez, vous utilisiez ce mot. Ça nous construit. Et c'est pas, en fait, cette compréhension-là, mais qu'à un moment donné, on se dit, si j'avais pas vécu ça, peut-être que je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc je peux avoir une certaine gratitude. Il y a dans le texte de Lojong, l'entraînement de l'esprit, en ces points qu'on avait vus l'an dernier, nos meilleurs ennemis sont nos meilleurs amis spirituels. Mais dans ce sens-là, une situation douloureuse, par exemple, qu'on peut considérer vraiment comme un ennemi, mais en fait on peut se rendre compte par la suite mais que ça a été un très grand ami spirituel, une aide spirituelle à ce moment-là.
Est-ce que le remerciement, c'est pas simplement aussi la reconnaissance?
C'est ça. Oui, c'est ça. Ah. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ce sentiment de gratitude.
Je reconnais que cette chose difficile m'a apporté quelque chose.
Ouais. Ouais.
Et je la remercie parce que.
Oui, tout à fait.
S'il y a quand même une expérience que je voudrais partager, mon collègue de travail qui m'a supporté. Elle m'énervait, quoi. Et du coup, étant donné que je travaille 35 heures avec elle, que c'est un nouveau travail, ça me fait un an maintenant, je me disais, c'est pas possible, ça ne va pas continuer pendant des années comme ça. Quoi. Elle ne faisant pas de pas pour une amélioration potentielle, je me suis dit, bon, allez, on lâche, là, c'est possible, on arrive tout. Essaie de la voir vraiment positivement, essaie d'être plus attentive par rapport à son mode de fonctionnement. T'as compris qu'il ne faut pas lui parler de manière directe ou trop abrupte, parce qu'elle ne fonctionne pas comme ça, donc essaie de faire des efforts. Et en fait, eh ben, la situation elle s'est transformée, mais totalement. Quoi.
C'est votre meilleure copine?
Eh ouais. Franchement, comme quoi, c'est pas venu comme ça, hein, ça s'est pas fait en un jour, il y a eu plusieurs tentatives. Et voilà, juste pour essayer de partager cette expérience, comme quoi c'est possible, quoi. Vraiment transformer son esprit en se disant non, mais retourne les situations à l'inverse, ou les blocs-là. Et... En fait, après, on a discuté ensemble, elle me disait qu'elle fonctionnait en miroir. Donc à chaque fois que moi j'étais un petit peu, un peu trop franche, et bah du coup, elle renvoyait en miroir, quoi. Donc forcément, ça pouvait pas coller. Et voilà.
Mais dans ce genre de situation, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a, à un moment donné, il y a eu ouverture. Il y a eu recherche d'une transformation. Ouverture, recherche de transformation, écoute, etc. Mais c'est synonyme de non-saisie à ce moment-là. S'il y avait crispation et solidification du processus, l'ouverture ne pouvait absolument pas se faire. Vous alliez vous crêper le chignon, vous alliez... Hein, mais voilà. Donc, quand on parle de non-saisie, mais c'est ça que ça veut dire. Rinpoche, il utilise souplesse de l'esprit. Eh oui, pour qu'il y ait souplesse de l'esprit, il ne faut pas qu'il y ait solidification ou rigidité. C'est des synonymes de non-saisie, ça. Et on voit bien que c'est dans ce mode d'être... Eh bien, que la situation, elle peut se modifier. Et que la saisie ou la fixation, mais ça solidifie les choses. Et alors, mais ça se trouve, 2 ans après, c'était toujours le même mode de relation extrêmement tendu. Et... C'est la saisie, mais qui solidifie tout, qui cristallise tout. Et qui, c'est la raideur, la rigidité, etc., quoi. Mais combien notre monde est régi par ça, quoi.
Donc on va voir si ça tient.
La copine a les chaussures, donc c'est tout ça.
Mais c'est bien. Au moins vous adaptez le dharma aux situations de votre vie quotidienne. Et ça, c'est très bien, c'est important.
Je peux vous poser une question.
Bien sûr.
Et quand on... Là, c'est dans le cadre de mon travail, est-ce qu'on peut appeler ça de la non-saisie quand une personne a commis un acte très grave, mais qu'on l'occupe dans le sens où on ne voit que l'être humain et quand il est en souffrance, qu'on lui répond, qu'on discute avec, qu'on s'ouvre à lui? Est-ce que c'est une non-saisie de ce qu'il a fait ou est-ce que c'est de l'indifférence par rapport à ce qu'il a fait?
Non, c'est pas de l'indifférence parce que vous savez ce qu'il a fait.
Oui.
Après, il peut y avoir une, si j'ai bien compris, il peut y avoir une compréhension aussi de qui est cette personne et qui fait que vous pouvez avoir par cette compréhension un mode relationnel qui se base sur cette compréhension et pas sur uniquement le fait de cette personne, de cet acte que cette personne a agi.
En fait, est-ce qu'on peut appeler ça de la compassion aussi dans le sens, si je me posais la question la dernière fois, dans le sens où par rapport à son, comment dire, à son profil sur le moment, l'état d'esprit qu'il avait, la souffrance, quoi que ce soit, le besoin de parler, le besoin de détailler ou plein de choses comme ça, c'est de se redire, c'est de remettre dans le contexte sur le moment où il a commis son acte et maintenant, et voir tout le cheminement mental qu'il a eu par rapport à tout ça.
Bien sûr.
Et est-ce qu'on peut appeler ça de la compassion, le fait de vouloir dialoguer, le fait de vouloir lui ouvrir l'esprit sur certaines choses et qu'il ne prenne pas sa souffrance directement comme ça en,
oui, bien sûr. Gueule, comme on dit. C'est différents aspects de la compassion. C'est la compréhension, par exemple, d'une situation dans ce cadre-là, c'est déjà un développement de la compassion. Et votre attitude après, ça peut exprimer aussi la compassion. La compassion, c'est pas de la pitié, hein. C'est faire en sorte que l'autre souffre moins. Si votre attitude est plus dans le non-jugement ou dans la compréhension de ce que vit l'autre, ouais, si ça peut lui apporter un mieux-être, c'est la compassion. Oui.
Et quand on parle de compassion, si quelqu'un vous manque de respect et que vous avez essayé de mettre en place cette compassion, cette compréhension, et que manifestement il se moque de vous, vous parliez de la compassion poubelle, intérieur. Si à ce moment-là je lui dis, bon écoutez, vous prenez vos responsabilités, moi je coupe et je m'en vais, et je n'agis plus pour vous, même si c'est mon rôle social, est-ce que je fais de la saisie ou alors est-ce que je rends service?
La compassion, c'est pas de la passion, quoi.
Oui.
D'accord. C'est-à-dire que dans si vous avez une situation dans laquelle vous devez être comme ça, etc., pour X raisons, la compassion, ce n'est pas tout accepter de la personne. Il faut que la compassion, elle soit aussi avec sagesse. Elle soit associée à de la sagesse. Et la sagesse, c'est comprendre les choses. Si les choses doivent être comme ça pour X raisons, elles doivent être comme ça. Et ça serait un manque de sagesse de tolérer. Et c'est souvent ce qu'on entend. Parce que je dois avoir de la compassion avec mes enfants, donc je n'exige plus rien. Et je leur permets de faire tout ce qu'ils veulent. Et à 15 ans, ils me crachent dessus. Oui, voilà, c'est le résultat. Je suis désolé. La fermeté dans une situation, si répondre à une situation, eh bien, ça doit être une réponse ferme. C'est ce qu'on appelle de la compassion ferme ou de la compassion courroucée. Mais c'est à ce moment-là une attitude. Parce que la situation, elle demande cela comme réponse. Et ce n'est pas une attitude que vous avez parce que vous êtes en colère ou parce que vous avez de la haine contre cette personne. C'est très différent. C'est par exemple ce qu'on appelle aussi la non-violence. La non-violence, ce n'est pas la passivité et tout recevoir d'une personne violente, par exemple, à notre égard. Gandhi a été non-violent et il a totalement agi. Il s'est opposé. Mais son action d'opposition et de tout ce qu'il a mis en place pour libérer l'Inde, ça n'a jamais été dicté par la haine des Anglais. Et c'est la différence entre la non-violence et la colère ou la haine, si vous voulez. Dans la non-violence, il n'y a pas de place, il n'y a pas de haine. Mais c'est pas forcément tout accepté. Il faut analyser et quelle est la réponse qui me paraît le plus juste à apporter dans cette situation-là. Après, quels sont les moyens que vous pouvez mettre en place pour que cette réponse, elle soit apportée. Et c'est juste comme façon d'agir à ce moment-là.
Alors, ce serait ça que Gandhi, par exemple, parfois dit, moi, j'utilise la non-violence, en tout cas, je je la mets en avant. On a aussi un modèle contemporain qui est Aung San Suu Kyi, qui
oui.
est pas mal. Mmh. Je crois que à un moment donné, il a dit bon, mais non-violence, d'accord, mais si c'est nécessaire, alors. Et il y avait un discours, enfin un dialogue entre Stéphane Hessel et le Dalai Lama qui a été retranscrit dans un ouvrage assez récent aussi, et où Stéphane Hessel a posé la question au Dalai Lama.
Ouais.
Non, bah, oui, Gandhi prône la non-violence, mais parfois il dit que ça peut être nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le Dalai Lama répond en parlant notamment, je crois aussi, hein, de proportionnalité, d'équilibre, lui-même a fait référence à son expérience avec ce qui se passait au Tibet. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer là-dessus, là-bas, parce que c'est assez compliqué, je dirais, ce que Gandhi met en avant.
Mais c'est ce qui motive l'acte. C'est là où la non-violence, elle se situe dans la motivation de l'acte. Vous avez, par exemple, dans les 46 actes incorrects d'un bodhisattva, vous avez un des actes qui, un bodhisattva doit tuer quelqu'un. Il doit tuer quelqu'un pour l'empêcher d'accomplir, par exemple, un acte extrêmement négatif. On va, par exemple, imaginer qu'un bodhisattva aurait très bien pu descendre Hitler. Pas seulement pour les victimes, aussi pour lui. Parce qu'aujourd'hui, l'effet des actes qu'il a accomplis, ça doit être dur. Mais il faut que, dans ce cas-là, l'acte soit motivé par une compassion non seulement pour les victimes, mais pour le bourreau lui-même. C'est-à-dire qu'il faut que la compassion soit totalement équanime. Et quand le Dalai Lama commente, par exemple, cette phrase de ce texte, il dit que, bon, nous n'en sommes absolument pas là, et que cet élément-là du texte, nous ne pouvons pas l'appliquer, on ne peut pas aller... aiguiller tout le monde en disant peut-être je suis un grand bodhisattva et... voilà, c'est pas comme ça, mais c'est-à-dire que la non-violence, elle se situe aussi au niveau de cette motivation. C'est-à-dire que oui, je comprends Gandhi qui dit que bah, peut-être pour éviter justement que telle personne agisse de façon terrible et fasse souffrir tant d'êtres, et pour lui-même aussi, eh bien il puisse agir de façon violente. Mais c'est une autre motivation que d'agir par haine ou par rejet de tel individu, racisme ou je ne sais quoi. Hein, c'est vraiment au niveau de la motivation que ça se situe. Voilà pour ce soir. Merci beaucoup. Et s'il y a des personnes qui se sont inscrites pour ce week-end,